Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du comportement de l'acteur américain Will Smith lors de la dernière cérémonie des Oscars. Plus qu'un simple fait d'actualité, cette histoire nous raconte des choses sur notre société et en dit beaucoup pour celui qui sait observer au-delà des apparences, au-delà des faits, au-delà de la simple actualité. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Cette histoire commence lors de la cérémonie des Oscars 2022. Cette cérémonie est animée par Chris Rock, qui est humoriste, mais pas seulement, il est aussi acteur, réalisateur, producteur américain. Et pendant cette soirée, Chris Rock fait le show en faisant des blagues, en vannant des membres du public. Et c'est quelque chose assez normal, j'ai même envie de dire, c'est un passage obligé. Qui ne s'est pas fait vanner lors d'une stand-up comédie ? Ou d'un one-man show, tout le monde ou presque tout le monde, surtout si vous êtes au premier rang, si vous êtes dans les deux, trois premiers rangs et que vous êtes à portée de vue de l'humoriste. Donc c'est une chose à laquelle on devrait être préparé et théoriquement, on ne devrait pas se vexer lorsqu'un humoriste nous vanne. Ça fait partie du spectacle, l'interaction avec le public. Et honnêtement, si on est extrêmement susceptible et qu'on sait qu'on ne va pas supporter ça, faut pas y aller. Faut pas aller voir un one-man show si tu as peur de te faire vanner. Et c'est donc dans ce contexte que Chris Rock, à un moment, vanne la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, en disant... Je suis impatient de te voir dans le prochain G.I. Jane.
Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay.
Et pour ceux qui ne le savent pas, G.I. Jane est un film américain réalisé par Ridley Scott en 1997 où on voit Demi Moore, le crâne rasé, un peu façon militaire masculin. Et Chris Rock faisait cette blague parce que la femme de Will Smith avait également le crâne rasé. Au moment où il faisait cette blague, et Chris Rock l'a confirmé, il ne savait pas que la femme de Will Smith était malade, il ne savait pas qu'elle avait une alopécie, qui est une maladie suite à laquelle on perd ses cheveux. Et il pensait que c'était tout simplement un style. Et d'ailleurs, la fille de Will Smith, Willow, a également le crâne rasé sans avoir la maladie de sa mère. Donc Chris Rock fait sa blague et au moment où il fait sa blague, tout le monde rigole, y compris Will Smith. On comprend le contexte, on sait qu'on est tous là pour rigoler, on sait que c'est une cérémonie où il va également potentiellement gagner l'Oscar du meilleur acteur et personne ne s'attend à la réaction de Will Smith.
That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow.
Et à un moment, il se lève, il s'avance vers Chris Rock, il monte sur scène et il lui décoche une baffe. Rétrospectivement, lorsque tout le monde a analysé les vidéos de la soirée, on a remarqué que Will Smith a changé d'attitude lorsqu'il a vu le visage de sa femme, lorsque Jada Pinkett a commencé à faire la gueule. Donc au début, il est là, il rigole avec tout le monde, il regarde à droite, il regarde à gauche, puis à un moment, il voit sa femme faire la gueule. Et là, il se dit, oula, faut pas rigoler, c'est en train de partir en couille. Pour rattraper le coup, il se lève et il va gifler Chris Rock face à une assemblée complètement déconcertée. Personne ne s'attendait à ça. T'imagines quelqu'un se lever, gifler un humoriste qui a fait une vanne.
Oh, wow! Wow!
Encore une fois, si t'aimes pas les vannes, si tu supportes pas les vannes, reste chez toi. Sinon, tu vas tabasser tous les humoristes de la Terre, c'est pas sérieux. Et ça, c'est le premier point que je souhaitais aborder. C'est la première chose que tout le monde a reproché à Will Smith. Parce que si c'était l'attitude d'un homme qui a été vexé, d'un homme qui a été touché dans son honneur, on l'aurait peut-être compris. Tu vois, s'il n'avait pas rigolé au départ, s'il avait fait la gueule dès le départ, on aurait compris que c'est l'acte d'un homme vexé, en colère, blessé dans son honneur, qui est allé quelque part rendre justice. Mais c'est pas du tout le cas. C'est un homme qui rigolait, qui avait trouvé la blague au départ plutôt drôle, Et c'est la réaction de sa femme qui a fait qu'il a changé d'avis. Et c'est là où Will Smith a baissé en estime chez beaucoup de ses fans, c'est que sa réaction n'était pas celle d'un homme en colère. C'est pas vrai. Sa réaction, c'est celle d'un homme qui a réagi en raison de la réaction de sa femme. C'est la réaction d'un homme qui a eu peur de la réaction de sa femme qui lui fait les gros yeux, qui fait la gueule, et lui qui se lève pour aller baffer un comédien. Au passage, je ne sais pas s'il aurait eu le même courage si le comédien était plus balèze que lui. Quelque part, Chris Rock, c'est pas 120 kilos, 1m95, c'est quelqu'un d'assez menu, il est plutôt normal, enfin il n'est pas impressionnant physiquement. Et s'il y avait eu, par exemple, The Rock sur scène, je ne sais pas s'il aurait eu le même courage pour aller lui décocher une baffe. Donc quelque part, il y a ces deux éléments qui se cumulent, le fait que cette réaction soit plutôt la réaction d'un lâche qui a peur de sa femme dans un premier temps, et cette réaction est doublement lâche parce qu'il est allé agresser quelqu'un qui, physiquement, ne fait pas le poids. Will Smith sait très bien que physiquement, Chris Rock n'aurait jamais pu, quelque part, lui rendre la monnaie de sa pièce. Il faut aussi ajouter le fait que Will Smith a pris des leçons de boxe. Pour la préparation de son film consacré à Mohamed Ali, il a fait des heures d'entraînement et donc il a un certain style, il a une certaine façon de frapper.
Le prophète est de retour pour prendre sa revanche. Regardez-moi ce bel homme. Je suis pas parfait comme spécimen, franchement.
Ils vont être sur votre dos. Vous êtes champion, poids lourd, champion du monde.
Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont observé cette baffe avec beaucoup de scepticisme parce qu'il y avait presque un style dans cette baffe. Ce n'était pas un truc qui est parti comme ça aléatoirement, le geste non contrôlé. Il se déplace vers Chris Rock, il regarde au sol, hein, il ne le regarde même pas dans les yeux. Et donc, Chris Rock ne s'attendait pas à ce qu'un coup arrive. Il n'y avait aucun contact visuel et tout en regardant le sol, il lui décoche cette baffe avec... Il y avait une espèce de swag, de mouvement, de style, je ne saurais pas comment décrire ça, assez particulier, tellement particulier que beaucoup au départ ont pensé que c'était une mise en scène.
I'm out here! Uh-oh! Richard! Oh, wow! Wow!
Beaucoup de gens ont pensé que c'était une espèce de poisson d'avril avant l'heure où les deux comédiens s'étaient mis d'accord pour faire un peu... une mise en scène pour faire un peu le buzz pour cette cérémonie des Oscars, tellement la démarche, la réaction, le geste de Will Smith n'était pas naturel. Mais bon, il s'avérera plus tard que tout ça était très sérieux et que ce n'était pas du tout une mise en scène. Donc voilà un peu le premier élément qui a fait que cet incident a été extrêmement médiatisé. À mon sens, ce n'est pas uniquement le fait qu'il y a eu violence lors de la cérémonie des Oscars, une cérémonie... l'une des plus importantes de l'année à Hollywood pour recevoir la consécration la plus importante du cinéma, un Oscar. Tout le monde est censé se tenir, tout le monde est bien habillé, tout le monde sourit. C'est une fois dans l'année et tu te dis qu'une fois dans l'année, tu peux te tenir. Donc personne ne s'attend à de la violence. Mais je pense que ce n'est pas ça qui a le plus choqué. C'est surtout la séquence dans laquelle ça s'est passé. Donc, un homme au début qui rigole à la blague de son poteau. Chris Rock et Will Smith se connaissent, il n'y a jamais eu d'agressivité entre eux. Donc une ambiance bon enfant, le mec rigole, sa femme le regarde de travers, il arrête immédiatement de rigoler, lui aussi fait la gueule, il se lève, il se déplace vers la scène avec encore une fois une gestuelle un peu bizarre, il regarde au sol et il lui décoche une baffe en mode boxeur. Par contre, je pense que le gagnant de cet affrontement, le mec qui est sorti digne de cet affrontement, c'est Chris Rock. Parce que, honnêtement, imaginez, mettez-vous à la place de l'animateur de la soirée, il reçoit une baffe, il reste stoïque, il ne surenchérit pas, il ne se lance pas dans la bagarre, tu serais tenté de lui balancer un coup de pied, une baffe, mais Chris Rock ne bouge pas, il dit simplement... Je viens de me faire tabasser par Will Smith. Il dit Will Smith kicked the shit out of me.
Will Smith just smacked the shit out of me.
He called my name. out your fucking mouth.
Wow, dude.
Yeah.
It was a G.I. Jane jump.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
I'm going to, okay? That was a greatest night in the history of television. Okay. Okay.
Et quelque part, Chris Rock s'apprête à continuer sa soirée comme si de rien n'était, sans aucun problème. Et c'est Will Smith qui surenchérit derrière et qui lui dit « Ferme ta gueule, ne prononce pas le nom de ma femme, keep my wife's name out of your fucking mouth. Garde le nom de ma femme en dehors de ta putain de bouche », pour traduire la chose littéralement. Et là, Chris Rock, toujours aussi calme, lui répond « Ok ». Ok, très bien, d'accord, c'est noté, je vais passer à autre chose, je vais vanner quelqu'un d'autre, mais bon, c'est bon, j'ai compris le délire. Et je dois dire qu'il a fait preuve d'un sang-froid, d'un stoïcisme, d'un recul assez impressionnant face à ça. Il n'a pas escaladé la chose, c'est pas parti en bagarre. Il a eu quelque part une retenue qui a peut-être finalement un peu sauvé la soirée, parce que derrière, Will Smith a finalement réussi à avoir son Oscar et il a même fait la fête après, ce que j'ai trouvé indécent. On le voit rapper dans une soirée après la cérémonie où il reprenait l'une de ses chansons de rap que je dois dire assez médiocre au final. J'ai jamais aimé le côté musique de Will Smith. Je l'ai toujours trouvé assez talentueux comme acteur. Je l'ai beaucoup aimé avant cet incident parce qu'il avait quelque part de l'humour sans en faire trop. C'est un peu l'acteur qui faisait de l'humour sans ne jamais tomber dans le ridicule, ce qui est très très difficile à faire. En général, quand tu fais ou quand tu es un acteur comique, tu es tenté de tomber dans le ridicule, de trop en faire quelque part. Et Will Smith, ça a toujours été quelqu'un qui a su faire de l'humour sans devenir un guignol. C'est toujours quelqu'un qui a su avoir des répliques qui font rire dans les films sans ne jamais tomber dans le côté burlesque, complètement humoristique d'un Jim Carrey par exemple. Autre chose qui a marqué, qui a choqué et qui est très paradoxal, et c'est de là que vient le titre de ce podcast, le paradoxe Will Smith, c'est que Will Smith est connu pour être un acteur féministe. Il le dit haut et fort, c'est un père féministe, c'est un acteur féministe. Sa fille Willow est connue partout à Hollywood comme une égérie du féminisme. Le crâne rasé, les cheveux violets, la totale. Et il a répondu, interrogé sur la coupe de cheveux de sa fille, « Si je lui apprends que je suis en charge de ce qu'elle fait de ses cheveux, elle me remplacera avec un autre homme lorsqu'elle s'aventurera dans ce monde. » Tout ça pour dire que si je suis trop patriarcal, si je suis trop homme avec elle, si je dicte trop ses comportements, eh bien, dans la vie, elle cherchera cette autorité et elle se retrouvera sous l'emprise d'un autre homme. Donc, il est vraiment dans une logique féministe, dans une idéologie féministe de la libération des femmes, y compris très jeune. Sa fille de 12 ans pouvait faire tout ce qu'elle voulait, des choses que des parents normaux et sérieux ne laisseraient pas faire. Mais ça vous montre un peu le personnage. Par contre, son comportement est complètement paradoxal par rapport à son idéologie. Il est presque schizophrène à cet égard. Pourquoi ? Parce que le geste que Will Smith a fait en défendant sa femme est hautement patriarcal. Je ne sais pas s'il est au courant, mais l'idée de défendre sa femme, c'est une idée patriarcale, c'est une idée machiste, au bon sens du terme.
Keep my wife's name out your fucking mouth.
I'm going to, okay?
Et c'est comme ça depuis que le monde est monde. Les hommes protègent les femmes. Malgré ce que pourra en dire le délire féministe, malgré toutes les idéologies sur le female empowerment, la force des femmes, la libération des femmes, lorsqu'il faut aller à la guerre, on le voit en Ukraine, les femmes se sauvent. Les hommes restent se battre. Les hommes ont même interdiction de quitter le territoire. Les hommes, jusqu'à l'âge de 60 ans, ont interdiction de partir. Vous imaginez des mecs de 55, 56, 60 ans en train de se battre, alors que toutes les femmes ont le droit de quitter le territoire. Dès qu'on revient à la réalité, dès qu'on revient au réalisme, l'équation est la même. Les hommes protègent les femmes et lorsqu'il y a des conflits, les femmes se sauvent, les femmes partent, les femmes et les enfants partent, les hommes restent se battre. Et finalement, Will Smith vient de nous prouver à quel point sa propre idéologie était flinguée. Lui qui se dit féministe pour l'émancipation des femmes, pour que les femmes se débrouillent elles-mêmes, pour que les femmes se défendent elles-mêmes, pour qu'elles aient le droit de se débrouiller et après tout de se démerder dans le monde, il t'explique tout ça pendant des années. Et il fait quoi? Il se comporte comme un macho, comme un patriarche, comme un symbole de la société patriarcale, l'homme qui se lève pour défendre sa femme. Il se lève pour tabasser un humoriste, qui plus est un collègue, un ami, un afro-américain comme lui, et on reviendra sur ce sujet qui a son importance. Il fait ça pour défendre une femme. Et voilà un peu la réalité du féminisme. Et je l'ai toujours dit et je le dirai toujours, je l'ai écrit, je l'ai dit, je l'ai répété, je le répète encore, à chaque fois que le féminisme est confronté à la réalité, il explose, il vole en éclats. À chaque fois que la réalité nous rattrape, la guerre, la violence, le féminisme explose. Et Will Smith n'échappe pas à la règle, sa femme est verbalement agressée par un autre homme. Il se sent pousser des couilles, alors pas naturellement, il se sent pousser des couilles parce que sa femme l'a regardé méchamment. Il se lève et il va gifler un autre mec. Et ça, c'est hautement paradoxal lorsqu'on connaît Will Smith qui défend le féminisme, qui défend sa fille égérie du féminisme, qui encourage les films et les productions féministes également. C'est pas uniquement une conviction chez lui, il fait aussi de la propagande. Un article de Madame Figaro titre d'ailleurs « Will Smith, père féministe et entraîneur acharné de Venus et Serena Williams dans King Richard, qui est le film pour lequel il a eu l'Oscar. » Et autre chose dont je voulais parler, c'est que Will Smith est l'archétype du faux alpha. Qu'est-ce que le faux alpha ? C'est un mec qui, extérieurement, a tous les déterminants de l'alpha. Le mec plutôt balèze, plutôt costaud, grand, drôle, bien entouré, successful, hein, riche, millionnaire, milliardaire même, superstar, mondialement adoré, avec beaucoup d'humour, un swag, une façon de parler, il est extrêmement à l'aise avec son corps. Il n'y a rien chez Will Smith qui pourrait te faire croire que c'est un bêta, un introverti, un faible, un fragile. Extérieurement, il a tous les déterminants de l'homme alpha. C'est un archétype de l'homme alpha. Mais en réalité, lorsqu'on regarde sa vie, lorsqu'on regarde son comportement, encore une fois, n'écoutez jamais ce que les gens disent, regardez ce qu'ils font. Lorsque vous voulez vraiment connaître quelqu'un, coupez le son, arrêtez d'écouter, arrêtez de lire, arrêtez de croire. Regardez simplement les actes, regardez simplement ce qu'ils font réellement de leur vie. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque lorsqu'on applique cette équation à Will Smith ? On remarque tout d'abord, pour commencer par la cérémonie des Oscars, que c'est un fragile, que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de conviction. Si sa femme ne l'avait pas regardé, jamais il ne se serait levé. Le mec était en train de se marrer, il kiffait l'humour de son pote, il était heureux à l'idée de recevoir un Oscar, il était au paradis. Si sa femme ne lui avait pas lancé ce regard, je vous parie que jamais, au grand jamais, il ne se serait levé. Donc c'est un mec qui n'a pas de conviction, qui vit au travers de sa femme, qui vit par sa femme. Si sa femme sourit, il sourit. Si sa femme lui fait les grands yeux, il s'énerve et il va tabasser son pote. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que tout le monde connaît à Hollywood aujourd'hui, hein, c'est un secret de polichinelle, Will Smith est le plus grand cocu du monde du cinéma. Personne n'a été autant cocufié que Will Smith. Déjà en 2011, sa femme avait fréquenté le mari de Jennifer Lopez, Marc Anthony. Tout le monde le savait, Will Smith, cocu des cocus, l'a appris en dernier. Et malgré ça, il n'a jamais blâmé sa femme, hein. Il a l'air d'être assez à l'aise avec ce genre de choses. Et un peu plus tard, en 2015, elle le trompe avec l'ami de son fils, âgé de 27 ans, Auguste Alsina, qui est aussi un rappeur, qu'elle avait fréquenté parce qu'il venait régulièrement à la maison, le poteau de son gamin. Et elle justifie le fait d'avoir trompé son mari avec ce gamin en disant « Il avait besoin d'aide. Il avait besoin d'aide. Je voulais l'aider à préserver sa santé physique et mental. Si lui pomper le sgeg, ça préserve sa santé mentale, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. La femme de Will Smith vient de trouver la thérapie des thérapies, elle va nous soigner tous les névrosés, tous les malades de la planète. Pompage de sgeg, t'es guéri. Et ces deux cas de tromperie, ces deux cas d'adultère de Jada Pinkett Smith sont uniquement les cas qu'on connaît. Derrière, j'imagine qu'elle a pris du kilomètre. Hein. Je ne vais pas vous développer tout le carrousel de Jada Pinkett Smith. Hein. Si vous voulez aller chercher dans les poubelles, vous trouverez de quoi vous amuser. Mais je vous donne simplement des échantillons qui vous expliquent un peu le personnage Will Smith. Le mec est cocu et ça n'a pas l'air de le déranger. Il a été cocufié, qui plus est, dans sa propre maison. T'imagines, le poteau, l'ami de ton gamin, vient rendre visite à ton fils à la maison et ta femme se le tape. Et toi, normal, c'est bien chéri, pas de problème. Et si quelqu'un fait des moqueries sur ta coupe de cheveux, je veux lui foutre des baffes. Tu comprends que le mec, on est assez loin du mâle alpha, du mâle dominant au final. C'est quelque part une espèce de carapace d'homme alpha qu'il a dû se faire. Mais Will Smith est un fragile profond. Il y a certainement plusieurs raisons à ça. On peut trouver des explications dans son histoire. C'est quelqu'un qui a été battu, violenté par son père. Il le raconte lui-même. Et il dit même qu'il a pensé à un moment tuer son père. Et là, je ne parle pas de mort spirituelle, hein. Je ne parle pas de la mort freudienne du père. Je parle du fait qu'il a pensé tuer, assassiner son père, l'éliminer réellement et concrètement, pour vous dire à quel point la relation avec son patriarche était tendue. Et forcément, ça laisse des séquelles. Derrière toute fragilité, il y a des raisons, derrière tout comportement irrationnel, il y a des raisons rationnelles qui trouvent souvent leurs origines dans l'enfance. Et donc, quelque part, Will Smith a réussi à se construire par sa carrière d'acteur, il a réussi à se construire par son aisance financière, par une certaine facilité financière, une facilité de réseau, une facilité à avoir des contacts, des amis, des films, etc. Mais ça n'a jamais compensé la fragilité de l'enfance, la fragilité de l'enfant battu, tabassé, dont quelque part tu ne te remets jamais. Je pense que tu apprends à vivre avec, mais tu ne te remets jamais de ça. Et je pense que collectivement, on ne se remet jamais des traumatismes de l'enfance, quel que soit le traumatisme. Il y a des degrés sur l'échelle de violence, mais le traumatisme peut être la pauvreté. On ne se remet jamais de la pauvreté de l'enfance. On avait un ami de la famille qui était quasiment millionnaire. C'était un très bon ami à mon père. Il était commerçant et il a toujours été anxieux vis-à-vis de l'argent. Il n'a jamais été à l'aise. Il avait toujours une forme de stress. Il avait du mal à dépenser, mais maladivement à dépenser. Et mon père un jour lui dit « Mais faut que tu te détentes, quoi. C'est bon. Le passé, c'est le passé. T'as galéré, mais maintenant, t'es bien, t'es à l'aise, t'as une famille, t'as des biens, t'es confortable, enfin, faut que tu passes au-delà de ce truc. C'est bon, tu peux dépenser sans faire une nuit blanche. » Et il lui répond quelque chose qui m'avait marqué. Moi, j'étais enfant à l'époque et j'écoutais cette conversation. Il lui dit « On ne se remet jamais de la pauvreté. On ne se remet jamais de la pauvreté. Quand t'as connu la pauvreté, quand t'as connu des nuits où t'as pas assez à manger, quand t'as connu des moments où tu ne pouvais pas accéder à des éléments basiques de la vie parce que tu n'avais pas assez de revenus, quelque part, tu ne t'en remets jamais. Et quelle que soit la quantité d'argent que tu arrives à générer, jamais tu n'oublieras une seule nuit de pauvreté que tu as passée. Ces choses-là, ça te marque, ça t'imprime pour la vie. Et je pense que la violence sur les enfants, c'est pareil. Quand tu as connu de la violence en tant qu'enfant, t'auras beau avoir la vie la plus prospère à laquelle tu puisses espérer, je pense que ça t'imprime pour la vie. T'apprends à vivre avec, ça veut pas dire que t'es flingué pour toujours, t'apprends à vivre avec. Mais honnêtement, je ne sais pas, même avec la meilleure thérapie du monde, je ne sais pas si on s'en débarrasse un jour. Et pour finir, je voulais vous parler d'une chose qui a très très peu été médiatisée, dont peu de personnes ont parlé, c'est le comportement de Denzel Washington dans cette soirée. Denzel Washington, c'est l'acteur afro-américain que je respecte le plus parce que c'est tout simplement le seul qui a une espèce de présence de daron. Denzel Washington, c'est le mec posé, c'est le mec, tu ne le verras jamais faire des morceaux de rap ou faire l'idiot sur un talk show. C'est toujours le mec carré, posé. Quand tu le vois, c'est le daron, quoi. C'est l'autorité absolue. Et quand Will Smith s'est levé pour gifler Chris Rock, il y avait une des caméras sur le visage de Denzel Washington et sur son expression, tu pouvais voir toute l'histoire des États-Unis défiler. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est aux États-Unis. On n'est pas en Europe, on n'est pas dans un pays qui n'a pas connu l'esclavage. On est dans un pays où les rapports entre blancs et noirs, les rapports entre blancs européens et afro-américains sont chargés, sont émotionnellement chargés, historiquement chargés par la question de l'esclavage. Et le spectacle que nous a offert Will Smith, c'est quoi ? Symboliquement, même si on pourrait le traduire par une simple bagarre, un acteur qui se lève, qui en gifle un autre, mais symboliquement, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus chargé que ça. C'est quoi, pour le résumer ? C'est un noir qui gifle un autre noir devant un parterre de blancs. Et je suis certain que c'est à ça que pensait Denzel Washington. Pour ceux qui ne le savent pas, à l'occasion des Oscars 2022 et pour la toute première fois de l'histoire, 100% de l'équipe de production était afro-américaine. C'est jamais arrivé, les Oscars ça a toujours été un truc de blanc, même s'il y a toujours eu des acteurs noirs, des comédiens, mais quelque part l'organisation, les producteurs, les réalisateurs ont toujours été à 99,99999% des blancs. Et pour la première fois, il y a eu un effort, une volonté d'avoir une équipe de production 100% constituée d'afro-américains. Et ça ajoute un élément important dans ce qui s'est passé, c'est que tu as envie de leur dire, les mecs, la première fois qu'on laisse l'organisation à une équipe constituée à 100% d'afro-américains, ça se termine en bagarre. Et ça, symboliquement, c'est fort, c'est lourd, c'est important. Chez Denzel Washington, dans l'expression de son visage, s'il pouvait parler, il aurait dit « Putain, les mecs, ça fait des siècles qu'on se bat pour expliquer qu'on est égal aux blancs, qu'on peut faire aussi bien, sinon mieux, qu'il n'y a pas de différence, que les discriminations ne sont pas justifiées. Et vous faites quoi ? Vous déclenchez une bagarre. » D'après vous, qu'a pensé l'extrême droite américaine en voyant ça ? Qu'a pensé la alt-right, l'extrême droite américaine, en voyant ce spectacle ? L'extrême droite américaine qui explique que les problèmes des Afro-Américains ne sont pas dus à la discrimination, ne sont pas dus à l'oppression des Blancs, mais ils sont dus à des problèmes intrinsèques, des problèmes propres à cette communauté. D'autres problèmes sociaux, familiaux, la quantité de divorces chez les Afro-Américains est phénoménale. Elle est importante chez les Blancs, mais les femmes célibataires, les mères célibataires dans la communauté noire est phénoménale. Tu as l'impression aux États-Unis que toutes les Afro-Américaines sont des mères célibataires. C'est très très difficile de trouver des familles aux États-Unis, des familles noires structurées, père, mère, qui n'ont pas divorcé, des familles dans lesquelles ce n'est pas le chaos, dans lesquelles il n'y a pas de problème d'argent. C'est toujours quelque part chaotique. Et on a des mouvements comme les Black Lives Matter qui nous expliquent que tous les problèmes de la communauté sont dus à l'oppression des Blancs, aux Blancs, le méchant Blanc qui les opprime, etc. Et les Blancs, la alt-right aux États-Unis, expliquent que l'esclavage, c'était une époque, d'accord, il s'est passé ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, les mecs, débrouillez-vous. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes des citoyens américains, vous avez des passeports comme nous, il n'y a pas de passeport pour les afros, des passeports pour les blancs, c'est les mêmes passeports, c'est les mêmes papiers, c'est les mêmes contrats. Quand tu veux acheter un logement, tu as accès à la propriété comme un blanc. Donc c'est pas, c'est bon, il y a eu apartheid, il y a eu discrimination, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc débrouillez-vous les mecs. Ça c'est le langage de la alt-right et de Trump également, qui a eu le soutien d'une grande partie de la communauté afro-américaine, au passage, qui sont d'accord avec ce discours, qui sont d'accord pour dire ça suffit. On s'est battu plutôt par le passé pour être égaux, on a atteint une forme d'égalité, maintenant il faut bosser. Il faut bosser, il faut sortir de la phase pleurniche. Peut-être que c'était utile à un moment pour sortir de la phase esclavage, droit civique, etc. Une fois que tu es sorti de là, c'est bon. Après, il y a la phase travail derrière. Il y a la phase combat pour les droits civiques. Une fois que c'est obtenu, il y a la phase travail, mec. Lève-toi et marche. Il y a la phase boulot. Et c'est un autre problème avec des mouvements comme les Black Lives Matter qui veulent passer de la phase obtention des droits civiques à une autre phase obtention des droits civiques, à encore une autre phase obtention des droits civiques. Et quelque part, ils veulent transformer la vie des Afro-Américains en une séquence interminable de pleurniches. Et donc, tu as plein d'Afro-Américains aux États-Unis qui ont compris ça, qui ont dépassé quelque part la question raciale, qui bossent, qui ont des business, qui se lèvent le matin, qui font des choses intéressantes, qui sont sortis de ce dogme de la pleurniche. Mais tu as un autre groupe, d'autres groupes, notamment encouragés en plus par une certaine gauche américaine, encouragés à la pleurniche éternelle. Et symboliquement, cette altercation entre deux Afro-Américains, deux comédiens qui se battent, enfin, se battent, c'est un grand mot, il y en a un qui en gifle un autre, face à un parterre de blancs médusés qui regardent, ça a un peu ramené ça sur le devant de la scène. Vous n'entendrez aucun média vous parler de ça parce que les gens ont peur de faire ces analyses. Très peu de gens osent aller dans le fond des choses. Et pour moi, dans cette salle, dans cet amphithéâtre de la cérémonie des Oscars, l'expression de Denzel Washington était la seule qui portait quelque part cette analyse ou cette inquiétude ou cette façon de voir les choses. Déjà parce qu'il a le recul pour le faire, hein. Denzel Washington est plus âgé que Will Smith, il a 67 ans, bientôt 68 ans, et parce qu'il a simplement plus vu, plus vécu. Et ça, c'est une analyse qui est difficile à faire, vue d'Europe, par exemple. Pourquoi ? Parce que la simple raison, c'est qu'on n'a pas la même histoire. Même si certains ont été tentés d'importer le problème Black Lives Matter en Europe, alors que c'est deux échelles complètement différentes. Les Africains présents sur le sol européen sont à 100% des travailleurs immigrés ou des descendants de travailleurs immigrés. Personne n'a été amené par la force. On pourra discuter de la pénibilité du travail, on pourra discuter des conditions, on pourra discuter des salaires, mais on n'a jamais enchaîné des gens pour les amener travailler en Europe. C'était pas le mécanisme, c'était pas la logique, ça ne s'est pas fait. Et au passage, le travail était pénible pour tout le monde. Je ne pense pas que un blanc dans le nord de la France, dans les mines du nord de la France, avait la vie plus facile qu'un Africain qui travaillait dans les mêmes mines. C'était une époque où le travail était pénible, tout simplement. Et tous les gens qui venaient travailler en Europe étaient des immigrés, et les Africains présents sur le sol européen sont ou des descendants d'immigrés, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants d'immigrés, ou des immigrés eux-mêmes. Les États-Unis, ce n'est pas le même délire. Encore une fois, même si certains sont tentés d'importer le problème des Afro-Américains en Europe pour expliquer que c'est la même chose, ce n'est pas la même chose. Il faut arrêter le délire. Les États-Unis, c'est des Européens, pour construire le nouveau continent, sont allés voler, kidnapper des habitants, des tribus en Afrique de l'Ouest, les ont attrapés, souvent avec l'aide d'autres Africains présents sur place. Hein, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Hein, faut arrêter l'histoire du méchant blanc tout seul qui a exploité l'Africain tout seul. Il y avait des sous-fifres, il y avait des hommes de main sur le continent africain qui étaient chargés d'aller kidnapper, d'attraper d'autres Africains. Tout ça a été aussi possible en raison de la trahison de certains Africains à leur propre peuple. Mais quoi qu'il en soit, on est dans une histoire de kidnapping, de gens arrachés à leur terre, enchaînés, entassés dans des bateaux pour aller vers une destination qu'ils ne connaissaient pas. Une grande partie mourait pendant la traversée. Lorsqu'ils arrivaient aux États-Unis, déjà ils se demandaient ce qu'ils foutaient là. On les emmenait directement dans des marchés où ils étaient vendus comme des commodités. On vendait un esclave comme on vendait un terrain, une maison, et c'était plus ou moins cher en fonction de la bonne santé, de l'âge, etc. Et ensuite, on les faisait travailler dans des champs de coton, sur des chantiers, pendant des années, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus travailler. Voilà de quoi on parle aux États-Unis. On n'est pas dans le travailleur immigré qui est venu avec un boulot, un contrat, etc. Donc importer le problème afro-américain en Europe, c'est du délire complet, c'est du délire de gauchistes qui souhaitent juste foutre la merde et contribuer à la guerre horizontale entre les pauvres blancs, les pauvres au sens pécunier, hein, les pauvres au sens salaire, hein, on assiste à un appauvrissement général. En Occident, il faut être réaliste, hein, on n'est pas du tout dans le débat du blanc riche qui exploite l'immigré pauvre. On assiste à un appauvrissement général. En Occident, c'est le blanc pauvre qui est en train de perdre son boulot en raison des délocalisations, des salaires qui baissent, de l'inflation, etc. Et l'immigré a à peu près le même sort. Donc, quelque part, tout le monde est égal face à la pauvreté. On n'est pas dans le délire du 16e, 17e siècle aux États-Unis d'Amérique. Avec des blancs qui volaient des terres aux Indiens, qui volaient des terres aux locaux, pour ensuite ramener des esclaves pour aller y travailler. On n'est pas dans le même délire et ça me sidère à chaque fois quand je vois des gens essayer d'importer le problème américain en Europe. Les Européens ont pratiqué l'esclavage en Afrique et en Amérique et ils ne l'ont jamais pratiqué sur leur propre sol, sur le territoire européen, pour diverses raisons. On pourrait développer des heures sur cet aspect de l'histoire, mais en tout cas, on n'a pas connu l'esclavage à une échelle de ce qu'on a pu voir aux États-Unis, en Europe, pour ne pas dire qu'on ne l'a pas connu du tout. Et pour revenir à ce que je disais, l'élément profond, la couche un peu plus profonde de ce que raconte cette altercation entre Will Smith et Chris Rock, c'est un peu ça, c'est les problèmes des communautés afro-américaines aux États-Unis, des problèmes dont personne ne veut parler, c'est pour ça qu'ils ne sont jamais réglés. Aux États-Unis, lorsqu'un policier tue un enfant ou un afro-américain d'une façon générale, ça fait les premières pages, les infos, tout le monde en parle, à juste titre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler ou qu'il faut masquer ce genre de choses. Par contre, ce qui est réellement masqué, c'est que la grande majorité des afro-américains assassinés le sont par d'autres afro-américains. C'est ça la réalité de l'Amérique. Lorsqu'on sort un peu des médias, lorsqu'on sort un peu de la narration médiatique et qu'on s'intéresse aux statistiques, lorsqu'un afro-américain est tué, dans 9 cas sur 10, il l'est par un autre afro-américain. Et ça, c'est la réalité de l'Amérique. Lorsqu'on est dans le concret, encore une fois, lorsqu'on sort de la narration médiatique, lorsqu'on sort des Black Lives Matter, des réseaux sociaux et qu'on est dans la vie réelle, lorsqu'une mère afro-américaine va à l'enterrement de son fils qui a été assassiné, dans 9 fois sur 10, son fils a été tué par un autre afro-américain, pas par un policier blanc, pas par un blanc d'une façon générale. Ça, c'est la réalité de la violence aux États-Unis que les médias ne veulent pas aborder, que les médias ne veulent pas raconter, parce qu'il semblerait que la narration de la guerre horizontale des Blancs qui tuent des Noirs ou des Européens qui tuent des Afro-Américains, ça a l'air de faire vendre ou d'intéresser plus que la réalité. La réalité, c'est que la majorité des crimes se font dans la même communauté, se font au sein de la communauté. C'est des Afro-Américains qui tuent leurs frères de sang afro-américains dans la majorité des cas. Mais c'est vrai que c'est une narration qui peut-être fait moins vendre, qui peut-être choque moins, parce qu'on se dit finalement, ça se passe dans la même communauté, on ne peut pas crier au racisme, c'est un dealer qui a tué quelqu'un d'autre, c'est un règlement de compte. Et je me dis finalement, est-ce que ça ne serait pas ça, le vrai racisme au final? Le fait de considérer que du moment que c'est dans la même communauté, du moment que c'est des Afro-Américains ou des descendants d'Africains qui se tuent entre eux, c'est pas grave. Mais s'il y a un blanc dans l'histoire, là c'est plus intéressant, là faut en parler, là ça va faire vendre. Et finalement, je me dis que c'est peut-être la plus haute forme de racisme pour tous les gens qui crient au racisme. Je me dis que finalement, le fait de considérer que des Afro-Américains qui s'entretuent entre eux et des meurtres dans 9 cas sur 10 qui sont le résultat de meurtres au sein de la même communauté, le fait que ça ne dérange personne et qu'on trouve que c'est très bien, est-ce que ça finalement c'est pas le vrai racisme. L'idée que du moment toute cette tambouille de crimes, de drogues, d'assassinats, de viols, d'incestes, de mères célibataires, de divorces, le fait que toute cette tambouille se passe entre eux, finalement, ça n'intéresse pas la presse. Ça n'intéresse pas les Blancs, en fait. C'est pas... Voilà, c'est dans la communauté qui se démerde. Et finalement, pour moi, je considère que ça, c'est la plus haute forme de racisme qui puisse exister. Parce que ça, c'est pas du virtue signaling, ce qu'on appelle en anglais, vous savez, tous les Blancs qui postent Black Lives Matter sur les réseaux sociaux, tous les Blancs qui font semblant de couler une larme quand un gamin noir est tué par un policier blanc. Finalement, je me dis, est-ce que c'est pas ces gens-là qui pratiquent la véritable et la plus haute forme de racisme parce qu'ils ne s'indignent pas quand une communauté entière est flinguée, quand une communauté entière est gangrénée par le crime, par la drogue, par le vol, par la violence, les gens s'en foutent. Et à chaque fois qu'il y a une petite altercation entre un blanc et un noir, c'est bon, c'est parti, c'est les médias, c'est les hashtags, c'est les policiers sont des criminels, etc. Et finalement, pour reprendre ce que disait Ted Kaczynski dans son manifeste, il disait que le gauchisme était l'une des plus grandes formes de suprémacisme racialiste. Le gauchiste est quelque part le plus grand suprémaciste racialiste, pire que le pire des droitards. Pourquoi ? Parce que, quelque part, le droitard t'explique qu'on est tous pareils. C'est un monde libéral, lève-toi et marche, démerde-toi, fais ta vie. C'est pas à moi de t'aider, c'est pas à moi de te soutenir, c'est pas à moi de te monter des associations dans tous les sens, bosse. Et en pensant de cette façon, on considère que tout le monde est égal. Finalement, le droitard est beaucoup plus égalitariste que le gauchiste, qui considère qu'il faut aider les minorités. Et en général, tu aides qui ? Tu aides le fragile. Donc, en considérant que tu as besoin d'aide, tu as besoin d'association, tu as besoin de militantisme, etc., le gauchiste considère que tu es inférieur à lui. Et considérer une minorité ou une ethnie différente comme étant inférieure, c'est quoi ? Ça s'appelle comment ? Quel est le vrai terme de cette démarche intellectuelle ? C'est tout simplement le suprémacisme racialiste. Une fois que tu as considéré que l'autre, de par sa condition quasi génétique, a besoin d'aide, a besoin d'association, tu as considéré de facto qu'il était inférieur à toi. Voilà la réalité de l'ADN du gauchisme derrière les bonnes intentions, derrière les hashtags Black Lives Matter, derrière les policiers c'est des méchants, etc. La réalité du gauchiste, c'est ça. Pourquoi le gauchiste aime aller dans des pays pauvres ? Pourquoi le gauchiste aime se balader en Inde, à Calcutta, au milieu de la misère, des égouts, de la merde ? Pourquoi le gauchiste aime ça ? Pourquoi t'as partout des gauchistes privilégiés qui se baladent en pyjama en Asie du Sud-Est ? Ils ont pourri le tourisme en Asie d'ailleurs. Ils ont pourri la Thaïlande, ils ont pourri Bali, ils sont en train de pourrir la Colombie. Partout où ils vont, ça se termine en pyjama, en train de fumer de la bœuf. Pourquoi, d'après vous, les gauchistes vont dans des pays pauvres, dans des pays où la vie est difficile ? D'après vous, c'est quoi la sensation qu'ils recherchent ? Ils recherchent la sensation de supériorité. Et c'est sur ça que je vais conclure. Le gauchiste, ne vous faites pas d'illusions, est un suprémaciste racialiste qui recherche au fond de lui la supériorité, que ce soit par le voyage dans des pays plus pauvres ou par l'aide de gens plus défavorisés au sein de son pays. Le gauchiste recherche toujours quelque chose qui lui démontre, qui lui prouve qu'il est supérieur aux autres. Voilà pourquoi je préférerais toujours l'authenticité et l'honnêteté du droitard à l'hypocrisie du gauchiste. Et c'est sur ça que je vais conclure. Et voilà donc pour mon analyse de cette altercation, de cette gifle, de cet acte malheureux de Will Smith. Il y a les choses qu'on peut voir de façon superficielle, il y a l'événement, il y a l'actualité, il y a la chose qu'on peut lire de façon légère, et il y a aussi l'analyse beaucoup plus profonde qu'on peut en tirer de la société américaine. Je pense que je ne suis pas le seul à penser tout ce que je viens de dire. Je pense que beaucoup de gens, en voyant ça, ont pensé la même chose de façon consciente ou inconsciente. Et à mon avis, la carrière de Will Smith est probablement finie en raison de cet acte. Je ne sais pas s'il arrivera à faire des films comme il le faisait par le passé. Sa carrière est entachée de ce geste. Il a fait du mal à la communauté afro-américaine, il a fait du mal à sa propre communauté. Beaucoup de ses fans, beaucoup de ses admirateurs ont perdu l'estime qu'ils avaient pour lui. Beaucoup de jeunes qui aimaient Will Smith, qui aimaient son humour, qui aimaient ses films, ont beaucoup perdu en estime pour ce personnage, de par ce qu'il nous a montré, de par sa fragilité, de par sa soumission à sa femme, de par son caractère de coq intégral. On connaissait Will Smith cocu, maintenant on connaît Will Smith agressif, incontrôlable, nerveux et surtout fragile, parce que l'acte qu'il a fait, ce n'est pas l'acte d'un mâle dominant, c'est l'acte d'un fragile qui ne sait pas se contrôler et qui réagit à un simple regard de sa femme. Sa femme lui fait les gros yeux et il va gifler un ami de longue date, un collègue, quelqu'un avec qui il a travaillé, quelqu'un qu'il a fréquenté, simplement en raison d'une blague malheureuse qui honnêtement n'était pas si mauvaise que ça, qui aurait pu passer inaperçue, mais en raison du comportement de Will Smith, les choses ont pris une autre tournure. Et je vais conclure sur la phrase de Denzel Washington, celle que Denzel Washington a dit à Will Smith lors de cette cérémonie des Oscars. Il lui dit « Lorsque tu seras à ton plus haut moment, au firmament, fais attention, c'est là que le diable viendra te chercher. » Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.